Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous pouvez nous écouter à Aurillac par exemple, hein, sur 101.0 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, le compte aussi Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Vincent Dureuil qui est propriétaire du domaine Dureuil Gential en Bourgogne, le Vino Quiz également qui va permettre à l'un d'entre vous de gagner un coffret Divine, des verres, 6 verres, hein, Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. Il faudra jouer pour ça sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme hier midi, Hélène Pio, Didier Lamouche et Philippe Vorbach. Bonjour, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour bien commencer cette émission dominicale, Invino sur Radio a le plaisir d'accueillir par téléphone Charlotte Boxler, vigneronne en Alsace. Bonjour Charlotte.
Bonjour à toute l'équipe.
Alors, vous êtes où exactement en Alsace? Parce que c'est une grande et belle région, ça.
Alors, on est situé dans le Haut-Rhin, à côté de Colmar, dans le village de Niedermorschwihr.
Niedermorschwihr. Comment vous l'écrivez, le nom de village? Parce que je suis toujours perturbé par les noms en Alsace.
On est à la radio, on s'en fout.
Alors, mais je plaisantais, Charlotte. Dites-nous, vous êtes la 11e génération, mais vous le portez, ce poids familial, c'est extraordinaire.
Voilà, la 11e génération de passionnés et d'amoureux de Riesling.
Eh oui, de Riesling, quoi. Hélène Pio.
Donc, le fondateur du domaine, c'était la 9e génération. C'était Justin Boxler, effectivement, donc qui a créé le domaine à son nom. En fait, c'est lui qui l'a créé, parce que c'est lui qui a commencé la mise en bouteille en 1957. Jusque-là, c'était pas mis en bouteille, c'était en vrac. C'était peut-être aussi pour la consommation essentiellement familiale, non?
Alors, on vendait en tonneaux à l'époque, donc les gens venaient directement à la propriété, chercher le vin dans des petits tonneaux. Et après, fin des années 50, le début des mises en bouteille, alors mon grand-père, Justin, a démarré l'activité de vente bouteille à la propriété.
Oh là là, Philippe, il n'y a qu'en Alsace qu'on a des belles histoires depuis 23 000 générations. Quoi. C'est vrai, hein. c'est légion là-bas dans cette région.
Il y a une vraie tradition et souvent les gens, c'est juste étonnant. Quoi.
Ouais, on ne vend pas le vignoble, on le transmet.
Absolument. Et sur les frontons des maisons, il y a souvent des dates improbables. On se dit, mais d'où ça vient?
C'est
mon aïeul.
C'est le même nom.
Exactement.
Didier Lamouche, vous appréciez les vins d'Alsace?
Particulièrement le Riesling.
Le Riesling, vous êtes très Riesling comme cépage.
Ah, hein. Et puis, je trouve un des meilleurs vins blancs du monde, le Château Sainte-Une, probablement. Philippe,
Le Clos
Sainte-Une. Longévité exceptionnelle.
Allez, on revient sur Charlotte.
La maison Trinbach.
C'est ça.
Absolument. On revient au domaine Justin Boxler. Donc, on disait Justin, votre grand-père, qui commence la mise en bouteille en 1957. La génération suivante, Pierre Boxler et Anne Boxler-Vis, qui s'y met, Pierre vénifie les vins du domaine depuis les années 80. Et puis aujourd'hui, c'est votre génération, Florent et Charlotte, qui s'y met. Et qui s'y met avec enthousiasme. Puisque vous misez tout sur le bio, vous arrivez, vous faites la révolution.
Alors le bio a été entrepris en 2009. Les démarches administratives n'ont pas été réalisées à l'époque. Alors c'est vrai que nous, on a mis ça en place en 2019, donc un premier millésime officiellement bio, disons administrativement bio, en 2022, donc l'année prochaine.
D'accord, c'est-à-dire que jusqu'à présent, en fait, il y avait les pratiques, mais ce n'était pas homologué, c'est ça?
Oui, c'est
pas
ça, certifié. Quoi.
Voilà, la 10e génération est amoureuse de ces terres, mais pas amoureuse de
la paperasse,
des charges administratives.
Ouais. Oui, c'est ça. Quoi. Et bosser en famille, comme ça, vous engueulez souvent ou pas?
Alors, on a une chance, on va dire. Mon père est vraiment plein d'enthousiasme à voir une nouvelle génération arriver, comme à l'époque, Justin a vu ses enfants arriver.
Oui.
Donc là, c'est un pari sérieux de travailler entre cousins et non plus entre frères.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est vrai qu'il y a une marge qui change, mais pour l'instant, on touche du bois, on est très heureux à travailler de la sorte. Et
vous êtes épanouie, Charlotte. Hélène, on parle un peu des vins ou pas là? Parce qu'elle est formidable, Charlotte, mais les vins aussi.
On parle un peu des vins, bien sûr. On va parler de la vigne en même temps que des vins, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc 12 hectares répartis sur 5 villages. Alors en Alsace, non seulement il y a des très longues histoires de famille.
Il y a des noms imprononçables aussi, sauf pour les Alsaciens.
Absolument. Ma maman s'appelle Odile Schneider, je la salue. Et donc du coup, j'ai aucun problème avec les noms alsaciens.
Oui, en tout cas, ça va.
Voilà. Donc on peut citer facilement les 5 bancs communaux du vignoble de Justin Boxler. Ils sont à Katzenthal, à Niedermorschwihr, à Ingersheim, Türkheim et à Mörschwihr.
Ah, mais vous êtes formidable,
Hélène. Voilà, vous voyez, c'est facile.
Vous avez des talents cachés, c'est impressionnant.
Absolument.
On fait la même chose demain pour le vignoble de Croatie.
Oui, alors ça va être un peu plus compliqué.
Et le plat d'Akmalik.
Voilà. Donc je disais, non seulement l'Alsace a des histoires de famille incroyables, mais avec autant de mosaïques géographiques et géologiques, ils ont toujours en permanence des gammes de vins pas possibles. Alors oui. j'ai compté, je crois, chez vous, jusqu'à 18 cuvées actuellement à la vente.
Sur 12 hectares.
Sur 12 hectares. Est-ce que c'est bien ça, Charlotte?
Alors même plus.
Oh,
même plus pour être totalement exact. Donc c'est vrai que nous, sur nos 12 hectares de vignes, on travaille sur 80 parcelles. Donc de ces 80 parcelles, alors il y a bien sûr une gamme qui propose des vins qui proviennent de différentes parcelles, donc toute la gamme empreinte, qui représente l'empreinte du vigneron et du cépage. Ensuite, on retrouvera la gamme vigne sélectionnée, donc là, des terroirs, des lieux dits précis. La gamme grand cru, qui, elle, met en avant les 4 grands crus sur lesquels on a la chance de travailler. Et pour finir, la gamme qu'on appelle exception, qui sont les vins en surmaturité, vendange tardive, sélection de Grenoble.
Merci beaucoup, Charlotte. Vous avez un site internet, peut-être, pour prendre renseignement sur votre domaine?
Oui, le site internet, c'est http://vinsboxler.fr.
Merci beaucoup, Charlotte. Bravo. Et puis, on vous rappelle pour la 12e, la 13e, la 14e génération. Bravo pour tout, Hélène Piau. Philippe Forbrach, maintenant c'est à vous Philippe. On change complètement de région. Nous allons dans les coteaux du Vendômois. Vendôme, on est quand même assez loin de Strasbourg, non ?
On est assez loin de Strasbourg, même si avec le TGV ça se fait finalement bien.
C'est vrai.
Puisqu'ils ont la chance à Vendôme d'avoir une gare TGV extrêmement utile. Ce qui met Vendôme, alors si on rajoute les 2 heures pour faire Paris-Strasbourg, il faut encore une petite heure pour aller à Vendôme, mais en tout cas c'est assez pratique. On est dans le département du Loir-et-Cher, cher à notre ami effectivement Michel Delpech depuis
absolument
longtemps. Et si dans ce département les gens-là ne font pas de manière, comme le disait l'artiste, ils font par contre de très jolis vins, originaux, amusants et plus qu'amusants, des vins très intéressants, et notamment élaborés pour les rouges et le gris, parce qu'il y a une grande tradition de vin gris à Vendôme.
Et le gris, c'est du rosé ou c'est du gris-gris?
C'est un gris, donc c'est un intermédiaire entre le rouge et le blanc. C'est plus léger qu'un clairé, c'est pas aussi coloré
C'est rosé, mais c'est gris après 4 ou 5 verres, c'est ça?
Oui, c'est ça. Attention, avec modération, monsieur Lamouche, Didier, toujours.
On a aussi à partir d'un certain âge, parce qu'on est un peu plus grisonnant, enfin, etc. Il y a
oui, comme le gris tôt, quoi. Oui, alors, revenons au gris du Vendômois.
Ce gris du Vendômois est issu d'un cépage qui s'appelle le Pinot de Nice.
D'accord.
Et le Pinot de Nice, c'est un cépage extrêmement pertinent, avec notamment une expression poivrée très marquée.
Mais vraiment, c'est au nez ou en bouche?
Les deux.
Mais les deux.
Franchement, c'est très caractéristique. Sur les rouges, on a des vins rouges relativement tendres en couleur, un peu dans la famille du Pinot, même si c'est pas le Pinot OTA, c'est le Pinot EAU. Un peu comme on l'appelait le Pinot de la Loire, le Chenin blanc. Enfin, c'est un peu compliqué tous les noms de cépages, hein, mais il vaut mieux des fois l'écrire plutôt que de le lire parce qu'on le comprend.
Moi, je préfère Hélène Piau quand elle parle de l'Alsace. Hein.
Voilà. Et donc, le Pinot de Nice est un cépage donc qui donne des vins relativement peu colorés, un peu comme donc les pinots noirs, mais par contre extrêmement épicés et notamment poivrés, ce qui le rend très identifiable.
Et quel type de plat on peut imaginer, Philippe?
Alors, le Pinot gris, le Pinot de Nice vinifié en gris, et non pas le Pinot gris, parce qu'on vient de parler de l'Alsace, là, ça peut prêter confusion, est un vin qui est recommandé sur les poissons, les charcuteries, les fromages, ou les cuisines exotiques. Ça fonctionne franchement très bien avec tout ce qui est cuisine, par exemple, thaïlandaise.
Un curry d'agneau, des trucs comme ça?
Un curry, ça peut aller.
Peut-être un petit peu de nom.
Voilà, avec le curry, moi, je préfère des vins jaunes, par exemple, dans le Jura. Oui. Je trouve que l'accord est plus pertinent. Mais ça peut, pourquoi pas, dans un curry goûté en plein
été. Ils font
aussi
des blancs et des rouges?
Alors, le rouge, également, donc, élaboré à partir de ce cépage, Pinot de Nice, mais pas que, on y trouve du Cabernet et notamment du Cabernet Franc, mais également du Pinot Noir et ou du Gamay. Donc on peut faire soit des monocépages, soit effectivement des assemblages, et ça, c'est plutôt agréable. Ce sont des vins qu'on a tendance plutôt à goûter relativement jeunes, c'est-à-dire que souvent l'évolution elle est plutôt entre 3 et 5 ans, même si ça peut se garder, hein, mais c'est souvent le moment où on les apprécie. On les goûte souvent un petit peu rafraîchis, On ne sait pas dire qu'il faut les mettre au frigo, les sortir à 5 degrés. Hein. Mais franchement, température de cave autour de 12-14 degrés,
oui, c'est bien.
C'est juste un vrai plaisir. Et ça accompagne bon, des viandes rouges, des grillades, etc. Mais aussi des poissons. Du coup, quand on rafraîchit un peu les vins rouges et qu'on ressort la fraîcheur sur du thon, par exemple, ça marche très très bien.
Didier Labouche, vous connaissez un peu les vins de cette région ?
La Pinot de Nice, du Vendemois. J'avais eu l'occasion de faire une chronique précédemment sur Janière. Et les producteurs de Janière, je pense, font aussi un peu de temps en temps, confidentiellement, du Pinot de Nice.
Exactement. Mais on est d'ailleurs dans le même coin. C'est la vallée du Loir et non pas la vallée de la Loire. Ouais. C'est le Loir, effectivement, dans cette vallée du Loir. On a effectivement le Janière également qui est voisin. Et d'ailleurs, on retrouve un cépage qu'on évoque souvent quand on parle de ce coin-là, c'est le Chenin blanc. Et les blancs sont élaborés effectivement à partir de Chenin blanc, qui est souvent marqué par le secteur dit à silex de l'appellation.
Oui.
Et il y a une très jolie pente qu'on appelle la pente des Coutisses, qui est très célèbre pour élaborer de très jolis vins, avec une très jolie exposition sud-sud-est, qui permet d'avoir de jolies maturités.
Et ça coûte combien à peu près ces vins, Philippe ?
La plupart des vins sont très raisonnables, peut-être même un peu trop. Le vigneron, des fois, du mal à vivre.
Il faut aider les vignerons à vendre un peu plus cher. Quand c'est... Là, on est quoi ? Tout à l'heure, on parlait de vins, enfin, il y a quelques, la semaine dernière, on parlait de vins autour de 5-6 euros. Là, on est à combien ?
Alors, on est un petit peu plus cher, mais on est autour 6, de... Ouais, moins de 10 euros pour la plupart. Et c'est presque un peu dommage, parce que ça vaut...
Ça mérite, quoi. Ouais, et les rouges, vous dites, au niveau température et service, on l'a bien compris, autour de 12, hein, peut-être, pour les grilles.
12-14. Non, 12-14 pour les rouges.
Les rouges.
D'ailleurs, les grilles aussi. Hein. Franchement, ouais, c'est plutôt 10-12. Mais voilà. Et puis, pour les blancs, on est aussi autour d'une dizaine de degrés. Rarement moins, c'est dommage. Quand on a des jolis vins, il faut...
Un ou deux vignerons, peut-être, à ne pas louper ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a la cave des vignerons vendômois qui travaillent très bien. Un des vignerons les plus célèbres, c'est Patrice Collin, qui est vraiment une des belles références. Et puis vous avez le domaine de la charloterie, Benoît Brasilier qui fait des très jolis vins, ou encore le domaine du four à chaud.
Merci beaucoup Philippe Forbrac, merci Hélène Didier. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Place de la Madeleine avec le Vino Quiz pour gagner un coffret Divine et 6 verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. A tout de suite.
Sud Radio Invino, midi 30, 13h. Alain Marty.
Retour chez le caviste Nicolas Paris, Place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous êtes toujours très nombreux. On vous en remercie à nous écouter chaque week-end. Et on peut se retrouver sur notre compte Instagram, Invino Sud Radio. Philippe Forbach, c'est à vous, Philippe Forbach, en tant que président de la sommellerie française, de nous parler de ce Vino Quiz de la semaine-là.
Et oui, je vous en rappelle d'ailleurs le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc, un coffret Divine et 6 verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier, appartenant au groupe Arc, leader mondial des arts de la table. Rien que ça. Voici la question de ce week-end. Quelle est l'activité œnotouristique inédite proposée à la Cape de Crouseille dans les Pyrénées-Atlantiques ? Réponse A, un escape game sur les secrets du Madiran dans le Chabaric. C'est un sujet.
Oui, pourquoi pas.
Réponse B, une visite de la cave en monocycle. Ça, c'est un peu risqué, je trouve.
Ça fait mal aux fesses, non ?
Voilà. Et réponse C, une partie de cache-cache dans la vigne. C'est sympa aussi. Hein. Franchement, les trois sont tentants.
Et là, pour jouer, comment on fait, Philippe ?
Il suffit d'aller toute la semaine sur le site invino.radio.tv, rubrique Vino Quiz, si vous souhaitez gagner un coffret Divine, 6 verres Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. On vous souhaite d'être tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Forbach, Invino Sud Radio. A le grand plaisir d'accueillir maintenant Vincent Dureuil. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors racontez-nous, là, vous êtes sur la côte chalonnaise avec une vingtaine d'hectares, plus ailleurs. Là, c'est quoi l'historique du vignoble ? Vous l'avez créé, vous l'avez repris, vous l'avez développé ?
En fait, j'ai repris les vignes de mes parents. Donc, ma maman, elle est issue du village de Ruyé. En fait, la famille Gentiale, on est une des 7 familles qui a résisté à la peste au 14e. Enfin, tout le monde est ici, leur famille a résisté à la peste, en fait. On est tous là. Donc,
c'est vrai que si on est là,
c'est que... Si vous êtes là, c'est que ça a résisté.
Mais bon, on fait pas... la famille Gentiale est une des plus vieilles familles du village. Et donc, ma maman avait les vignes de son papa. Elle s'est mariée avec mon papa, lui, qui est de Pugny-Montrachet. Donc, on a récupéré... On exploite 2 hectares à Puligny. Lui, il est issu d'une famille de vignerons aussi, de père en fils. Et moi, je me suis marié avec...
Vous avez récupéré grâce au mariage aussi ?
Ma femme est issue d'une petite famille aussi de vignerons à Promo-Prisset. Donc, elle a 1 hectare. Donc, on fait des vignes de famille.
D'abord, vous l'aimez, et après, elle a 1 hectare.
Mais bon. Ouais. ça, c'est au début du mariage. 20 ans après, en général, on aime d'abord l'hectare. Mais bon, c'est...
Et alors, ça veut dire qu'au total, vous avez combien d'hectares ?
J'exploite 21 hectares.
Ce qui est énorme en Bourgogne, c'est énorme. Hein.
Ça occupe bien. Ouais. Ça occupe bien.
Hélène.
Alors effectivement, c'est, la Bourgogne est plutôt connue pour avoir des domaines beaucoup plus petits. Donc ça fait de vous un acteur incontournable, d'autant plus incontournable que vous êtes connu pour vos choix qui se démarquent. Je pense notamment à tout ce que vous faites à la vigne et à cette démarche que vous avez assumée de commencer quelques années en bio, d'arrêter quand il a fallu ouvrir le parapluie parce qu'il y a eu des années de météo épouvantables, et puis de dire bah, après on reprendra quand on pourra. Mais je trouve ça hyper courageux comme démarche.
Je ne sais pas si c'est courageux, c'est en fait...
C'est pragmatique.
On va dire que c'est un fil de vie. On a eu le millésime 2016 qui a été très compliqué, où en fait on a eu du gel le 27 avril, et ensuite la pluie, et le milieu est arrivé... Et qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on a fait un traitement conventionnel parce qu'on avait la pression psychologique du gel et plein de choses. Et voilà. Et puis on repart.
Repartez maintenant, quoi.
Oui, là, ça y est. 2021 était un millésime pour moi plus compliqué au niveau maladie et gel que 2016. On est passé sans problème. Après, par rapport à la viticulture bio, il faut être super... équipé, en fait, c'est ça le problème que j'ai eu avant. Il faut pouvoir faire le domaine domaine en 7 heures, enfin en une demi-journée. Avant, je pouvais pas. Avant, il me fallait 2 jours et le problème était là.
Et vous êtes assuré contre ces problématiques, gel, grève, tout ça, ou vous assumez ?
Moi, non, on assume.
Donc, pas de sous-assurance.
Il y a des assurances, mais c'est très cher et c'est très aléatoire.
Ouais, et en plus, il y a des grosses franchises, c'est des moyennes sur 5 ans. Et absolument. En fait, une moyenne sur 5 ans, on compte la moyenne sur 5 ans en enlevant la plus grosse année, la plus petite année. Et en fait, depuis ces dernières années, on a gelé en 2016, en 2017, en 2019, en 2021. Et donc, en fait, si on fait le calcul, les récoltes sont petites avec les franchises.
Ah oui.
Donc, vaut mieux faire un petit peu de stock pour... en fait, pour moi, la vraie assurance, c'est d'avoir un peu de stock.
Pour passer pour pouvoir, une année un peu compliquée.
Et en 2021,
c'était compliqué.
Oui, on a eu le gel, un gel assez conséquent. Le
8 avril.
Ouais. En fait, on a eu un truc que mon père n'a jamais vu, et je pense que mon grand-père, mon arrière-grand-père, on a eu la neige.
Le 8 avril, il neigeait chez vous.
On a eu 3-4 cm de neige, c'est ça qui a. Parce que la veille, en fait, il a fait très froid, mais on avait le vent du nord, on avait beaucoup de. Tout était sec, et c'est passé. Et le lendemain, donc, moi je me suis réveillé, je me suis pas endormi, c'était 11h minuit, il neigeait comme au mois de janvier à la montagne.
Et qu'est-ce qui se passe dans la vigne un 8 avril, Philippe Forbach ? Elle en est où la plante ?
Surtout cette année où il faisait chaud avant, la vigne avait déjà pas mal évolué.
Ouais.
Commençait à débourrer, enfin c'était extrêmement
c'était
sensible.
C'était pas le bon moment de geler,
C'était même un des pires moments.
Quoi. Ouais.
Donc après, il peut y avoir, la vigne peut récupérer une partie, il peut y avoir des contre-bourgeons peut-être fructifères qui sont sortis, mais ça enlève quand même une grosse partie de la récolte.
Combien vous avez perdu cette année en pourcentage ?
On va 80%.
Ouais, 80%,
près,
c'est quand même énorme.
Ouais, en fait, c'est la plus petite récolte de ma carrière, mais après, c'est notre métier. On est vigneron, on est paysan, donc nos parents ont connu des petites récoltes, nos grands-parents ont des réserves.
Ils avaient d'autres risques, les grands-parents, peut-être. Là, c'est...
Ça fait partie du métier. On ne peut pas avoir des 2018 tout le temps. Quoi. En fait, c'est dans notre culture. On a une transmission orale de nos parents. Moi, j'ai connu mes deux grands-parents. Et ils nous ont toujours parlé des millésimes difficiles comme des millésimes faciles. Et
oui, en fait, 1956,
les grands millésimes 59, 47, les millésimes plus difficiles 65, 77. Et en fait, ça arrive. Après, mon père n'a jamais vu du gel 5 ans sur 6. Quoi, sur 6
oui, 5 sur 6, ça commence à devenir très, très préoccupant. Hein,
4 fois, oui.
C'est vraiment un effet du changement climatique, vous pensez ?
Ça, je sais pas. Le problème, c'est que le climat, en fait, cet été, il a fait froid. Enfin, il a fait moins chaud que 2020-2019. C'est un été plus continental.
Plus vieux.
Et par contre, c'est le printemps. En fait, le souci qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a plus d'hiver. Moi, quand j'étais gamin, il y avait de la neige, il faisait froid. Mon père, il faisait des piquets au mois de janvier parce qu'il pouvait pas aller aux vignes. Et maintenant, en fait, il fait doux tout le temps. Et au mois de mars, on a eu deux semaines estivales. On était en short, en t-shirt, avec des coups de soleil. la vigne, elle a eu un message.
Ça y est, c'est le moment, on sort.
Chaleur. Oui. Et la semaine après, ça fait la vague de froid qui est tombée.
Allez, on arrive sur le vin en lui-même. Donc, oui. On parle un peu. Vous avez quoi ? Vous avez mercuré ? Vous avez quoi comme appellation ?
J'ai un petit peu de mercuré aussi, oui.
Ouais. Aussi. Ça, c'est, Hélène ? C'est...
Donc, effectivement, 100 000 bouteilles, hein, forcément, parce qu'avec avec autant de vignes, forcément, ça fait du vin. De Bourgogne. Alors, si on parle des blancs, de Bourgogne, 8 Rully, 2 Puligny-Montrachet.
C'est ça, exactement. Oui.
Et puis en rouge, de Bourgogne, 6 Rully, 2 Nuits-Saint-Georges et 1 Mercurey.
Exactement.
Voilà. Moi, j'ai un crush absolu sur votre Mercurey. C'est ça fait partie de mes petites de mes
votre
petits
péché
plaisirs.
Mignon, j'avoue, avouable.
J'avoue. D'autant plus que vous êtes connu pour avoir des rapports qualité-prix vraiment vraiment intéressants. Et c'est vrai que moi, votre Mercurey de mémoire, je l'ai autour de 26€, un truc comme ça. Mm-hmm. Et il y a des Mercurey tellement plus chers que ça. Est tellement moins bon. Allez, on balance. Non, je donnerai pas les dons. Hein. Mmh. Mais voilà. Enfin, donc.
Non, mais il y a des très bons Mercurey. Vous voyez des Chamirets,
oui,
aussi, ils sont
évidemment,
aussi raisonnables.
Évidemment, évidemment.
Heureusement, il y a pas mal de belles maisons. Les prix, ça, bon, déjà 26€, c'est déjà pas dans l'absolu.
Oui.
Si. En Bourgogne, bon, d'accord, mais dans l'absolu, c'est déjà un peu cher, quoi. Et là, vous êtes raisonnable. C'est une volonté pour garder les consommateurs, notamment Hélène Piau. Vous voulez garder
Oui, il faut. Enfin. Je pense qu'on a des prix qui correspondent au travail qu'on fait et on vend beaucoup en France, donc on a une clientèle particulière qui nous suit depuis très longtemps. On a des restaurants, des cavistes et en fait voilà, on a une clientèle historique. Donc,
Alors ce Mercurey dont Hélène est tombée amoureuse, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Il a été créé pour vieillir, il a été créé pour être dégusté jeune. Quel type de cépage on a par exemple ?
Moi, je fais des vins pour vieillir. En fait, on est sur un Pinot. C'est des vignes qui ont été plantées en 65 et
1900, hein, rassurez-vous.
1965.
Et ouais. Je précise que je n'étais pas née. C'est pas mon année de naissance.
Et donc en fait, avec une je fais des longs élevages. J'ai la chance d'avoir des caves très froides. Donc l'été, en 2020, où il faisait très chaud, elles sont montées à 16 degrés. Et elles sont très humides. On a 98% d'hygrométrie. Donc ça me permet de pouvoir élever très longtemps. Et je fais des élevages de 18 mois. Donc en fait, les vins passent 18 mois en cave avant le soutirage et la mise en bouteille.
Ce qui, par rapport à la moyenne de l'appellation, 18 mois, c'est très long, c'est...
Après, je sais, chacun a des pratiques. Il y a des gens qui mettent en bouteille plus tôt, des gens qui mettent en bouteille peut-être plus tard. Mais j'aime bien... Enfin, c'est ce que nos grands-parents disaient. Il faut toujours qu'un vin passe deux hivers avant d'être mis en bouteille.
Le bon sens. Philippe Forbrac, cette appellation Mercurey, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
C'est une appellation, effectivement, du sud de la Bourgogne qui... est moins connu, même si une certaine réputation, moins connu que les grandes appellations de la côte.
On a des blancs et des rouges ?
Il y a des blancs et des rouges sur Mercurey, absolument. Et il y a des très jolis premiers crus qui donnent des vins encore plus concentrés, plus de garde, etc. Et ce sont des vins que nous, en restauration, on adore. Parce que c'est un poil découverte pour les clients, c'est accessible en prix. On peut les goûter avec bonheur à différents âges, parce qu'effectivement, même si vous faites des mercurés plutôt évoqués, rouges et relativement concentrés, on peut quand même les boire au bout de 3, 4, 5 ans.
Oui,
en mettant en carafe, et voilà, sans aucun problème. Et en même temps, ça se garde. Moi, il m'est arrivé, je goûtais encore récemment un mercurey d'une vingtaine d'années. Il était au rendez-vous, l'artiste. Donc, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'était extrêmement
c'est
agréable.
Donc,
les blancs aussi. Ouais. Parce que souvent, on dit les blancs, oui, il faut les boire un peu plus vite. Non, mais les chardonnays de jolis terroirs et mercurey, il y en a quelques-uns. Ça peut se garder aussi entre 10 et 15 ans sans aucun
problème. Vous aimez les mercurey, Didier Lamouche ?
Moi, j'ai une faiblesse pour les blancs, plutôt.
En mercurey, en blanc.
En mercurey blanc.
Dites tout, Vincent.
Et en Rully ?
En Rully aussi, c'est
aussi,
pas mal.
C'est la même chose.
Il y a un site internet peut-être pour prendre enseignement, quelques infos sur.
www.duregential.fr.
Duregential. Comment s'écrit Gential, vous dites ?
Janthial.
Merci beaucoup, Vincent. Merci également à vous, Hélène Piau, Didier Lamouche, Charlotte Boxler, Philippe Format, qui est aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Bravo à tous les deux. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Sud Radio. invinoradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook et le compte Instagram Invino Sud Radio. Retrouvez dès aujourd'hui sur le site invinoradio.tv votre chronique Didier Lamouche qui nous parlera donc des vins sud-africains avec quelques coups de cœur très sympas. On se retrouve samedi prochain à 12h30 pour un nouveau numéro délocalisé chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.